Le journal Frédéric Métezeau, bonjour.
Bonjour à tous. Retour à l'isoloir pour les Israéliens. Benjamin Netanyahou n'a pas de coalition. Le Parlement décide de sa dissolution un mois et demi après son élection. Netanyahou est en difficulté politique et surtout judiciaire. Nous serons à Jérusalem dans une minute. Jadot, très haut. Yannick Jadot, troisième aux élections européennes et premier du baromètre politique Odoxa pour France Inter. Les conséquences de ce scrutin européen, Nicolas, vous en parlez avec deux invités dans le grand débat.
Oui, Dominique Reynier, Rémi Lefebvre, ils sont, pour le dire vite, politologues. Ils seront au micro de France Inter dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous dès maintenant, dialoguez avec eux. 01 45 24 7000 si vous aimez le téléphone, si vous préférez le smartphone, les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Au sommaire ce matin, Patrick Balkany qui traite l'un de ses co-prévenus d'escroc. Tout est bon dans le cochon, mais au prix fort, les cours du porc sont au plus haut pour fournir le marché chinois. Et l'histoire du plus petit bébé prématuré du monde, Seibi, aux États-Unis, pesait moins de 250 grammes, c'est le poids d'une baguette de pain. Elle est sortie de l'hôpital et elle va bien.
France Inter.
Bibi Netanyahou en est resté baba, nerveux, fermé, contrarié. Hier soir, le Premier ministre israélien n'a pas trouvé de majorité au Parlement, la Knesset. Après les législatives, il y a un mois et demi, il semblait bien placé pour former un gouvernement très à droite. Mais les négociations ont échoué. Benjamin Netanyahou, surnommé Bibi, a négocié en vain avec ses alliés jusqu'à 23h59, c'était leur limite. Et donc, il y aura de nouvelles élections législatives en Israël le 17 septembre prochain. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Correspondant de France Inter en direct de Jérusalem. Étienne, c'est la première fois que cette situation se déroule en Israël, première fois que ça arrive. Tout ça, Étienne, après une incroyable journée de poker menteur.
Oui, le Premier ministre a attiré tous les leviers pour tenter de se sortir du guépier. Il y a eu les pressions, l'ultime session de négociation et même la braderie des postes de ministres dans la nuit que Benjamin Netanyahou était prêt à distribuer au parti travailliste pour tenter, dans un geste désespéré, de le faire monter à bord. Mais la machine est restée grippée. Avigdor Lieberman n'a pas acheté l'alliance avec les ultra-orthodoxes. Tout le monde s'est rejeté ensuite la responsabilité et les députés ont adopté leur propre naufrage dans une ambiance surréaliste. Dans cette tragédie politique, Benjamin Netanyahou paye sans doute déjà le poids des affaires. C'est l'un des éléments qui peut expliquer la mutinerie d'Avigdor Lieberman. La psychologie de l'ancien ministre de la Défense est un blockhouse, mais il a sans doute senti la faille, frustré depuis des années d'être corseté dans l'ombre du grand Netanyahou. Le Premier ministre pourrait être tenu maintenant responsable de cet échec. Il n'a pas vu venir la menace. Il n'a pas trouvé la parade. Il est enfin celui qui a préféré dissoudre la Knesset plutôt que de remettre le mandat au président pour tenter de trouver une autre solution avec un autre chef de parti.
Et désormais, qu'est-ce qui attend le Premier ministre israélien à présent ? Quel est le calendrier ?
Il va repartir en campagne, 17 septembre, date envisagée des élections. Il reste le héros de la droite populaire, hier soir son parti a fait corps avec lui. Mais les perdants de la dernière élection vont tenter de se refaire et le vote tombera quelques semaines seulement avant l'audition programmée du Premier ministre par la justice. Sans député, Benjamin Netanyahou n'aura pas la possibilité avant de faire voter un parapluie légal pour se préserver de ses poursuites.
Étienne Monin en direct de Jérusalem pour France Inter. Israël vote de nouveau. Ce sera à la une d'un jour dans le monde ce soir à 18h15. Un bateau de plaisance sombre après une collision sur le Danube au niveau de Budapest en Hongrie. 7 personnes tuées, 19 portées disparues, des touristes sud-coréens.
Il est 8h04, Frédéric. Yannick Jadot, personnalité politique la plus appréciée des Français.
Si l'on en croit le baromètre politique mensuel Odoxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale, la popularité des Emmanuel Macron est en baisse de 2 points à 30%, celle d'Édouard Philippe est stable à 34%. Les personnalités les plus rejetées sont dans l'ordre Manuel Valls, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez et Christophe Castaner. À l'inverse, celui qui suscite le plus d'adhésion est la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Il bondit à la première place, nous explique le président d'Odoxa, Gaël Slimane.
Ce qui est très spectaculaire, et c'est même inédit hein, sur notre baromètre politique, c'est l'envolée, l'explosion de la bombe Jadot. Yannick Jadot gagne 20 points sur notre cote d'adhésion et il atterrit directement de la 15e à la première place. Il est aujourd'hui la personnalité politique qui, en France, suscite le plus de soutien et d'adhésion, nettement devant la deuxième, en l'occurrence Marine Le Pen. Il lui ravit la première place, c'était elle qui était en tête le mois dernier. Il compte 4 points d'avance sur Marine Le Pen. C'est 25 points que prend Yannick Jadot auprès des sympathisants de gauche, en volant la vedette cette fois à Jean-Luc Mélenchon qui recule, et en devenant la personnalité politique largement préférée des sympathisants de gauche. Donc très clairement, sur notre baromètre politique ce mois-ci, la star, c'est Yannick Jadot.
Un baromètre réalisé auprès de 980 personnes au lendemain des européennes, à retrouver sur franceinter.fr. Le président d'Odoxa, Gaël Slimane, répondait à Yael Gauz. Les européennes suivent, avec en quelque sorte les deuxième et troisième tours du scrutin qui se jouent dans les coulisses. Qui pour présider la Commission européenne, le Conseil européen ou la Banque centrale européenne? Qui pour porter la diplomatie de l'Union? Quelles alliances au sein du nouveau Parlement européen? Marie-Pierre Véraud, un autre marchandage a commencé dès dimanche soir pour attirer les eurodéputés qui n'ont pas encore choisi leur groupe.
Le temps de parole, l'ordre d'intervention, les postes importants, sans oublier les moyens financiers, tout cela dépend du nombre d'eurodéputés, d'où la chasse à ceux qui n'ont pas encore rejoint un groupe, bien sûr en toute discrétion, comme l'explique Elisabeth Morin-Chartier, eurodéputée sortante.
Ça se passe de façon extrêmement discrète, plutôt en tête-à-tête, plutôt avec 2 tasses de café de part et d'autre de la table, et très souvent, cette au bar Mickey à côté de l'hémicycle que ces choses-là se préparent.
Important pour les grandes formations, leur ralliement peut être vital pour les plus petites, car pour constituer un groupe, il faut rassembler au moins 25 députés issus de 7 pays différents. On va donc parfois courtiser un eurodéputé qui apportera la nationalité manquante. Nécessaire, la taille n'est cependant pas suffisante pour peser à Strasbourg, car il n'y a pas de discipline de groupe, et à l'heure du vote, on perd forcément des voix dans ses propres rangs. Pour l'emporter, il faut élargir sa base, bâtir des compromis, rallier 3 voire 4 groupes, quelle que soit sa taille, nul n'est donc tout seul faiseur de roi à Strasbourg.
Un nouveau règlement intérieur à l'Assemblée nationale française qui prévoit notamment de réduire les temps de parole en séance. La majorité parle de débats plus fluides, l'opposition craint des députés muselés. Autre point adopté hier, un dispositif de lutte contre le harcèlement au sein de l'Assemblée. Pour la députée de gauche Delphine Bateau, il faut briser la loi du silence. Le collectif Chères collaboratrices a publié une enquête édifiante sur ce sujet. Du harcèlement moral présumé dans un supermarché d'Héricourt en Haute-Saône, 4 cadres ont été mis en examen hier. Soupçonnés d'avoir harcelé au moins 25 salariés. Les témoignages parlent d'insultes racistes, de moqueries sur le physique, d'heures supplémentaires pas payées, de femmes enceintes et d'handicapés qui devaient porter des charges lourdes. Plusieurs employés ont finalement été licenciés pour inaptitude.
8h08, le procès Balkany, décidément un théâtre de boulevard.
À qui appartient le riad de Marrakech? C'était l'objet des débats hier. Pas à nous, affirme Patrick Balkany. Non, il appartient à l'homme d'affaires saoudien très riche Mohamed Al-Jaber, qui voulait construire des tours à Levallois. Également prévenu dans ce procès, Al-Jaber a pris la parole et il a démenti Balkany. Sarah Guibaudot.
Mohamed Al-Jaber a l'allure débonnaire et un sérieux embonpoint. Il pèse 7 milliards de dollars selon Bloomberg. Il a des propriétés à Londres, à Houston, au Portugal, un château près de Paris. Mais à Marrakech, rien. Ce que disent les Balkany, c'est 100% faux, martèle le Saoudien dans un anglais chantant. Pour les Balkany, en effet, ce riad où il venait 5 fois par an, où Isabelle a fait livrer des meubles, le milliardaire en serait le véritable propriétaire. Une façon d'expliquer pourquoi c'est bien avec de l'argent d'Al-Jaber que la villa a été acheté en 2009. L'accusation a une autre théorie. Cet argent serait un pot de vin versé par le Saoudien quand il voulait construire 2 tours de 160 mètres de haut à Levallois-Perret. L'opération ne s'est pas faite, la ville réclame 14 millions d'euros à Al-Jaber. Patrick Balkany se lève et le traite d'escroc. Le président lui demande de se rasseoir et qu'il cesse de vociférer. Le tribunal n'a fait qu'entamer le sujet de Marrakech et la partie risque de se corser pour Patrick Balkany mais aussi pour Al-Jaber qui hier s'est donné le beau rôle, sans trop s'expliquer sur les cadeaux qu'il est accusé d'avoir fait aux Balkany.
Il reconnaît avoir préparé le colis piégé qui a explosé vendredi dernier à Lyon et blessé 13 personnes. Le principal suspect est en garde à vue à la DGSI. Et hier soir, en fin de journée, il a reconnu avoir confectionné l'engin explosif. Pour quelles raisons? Les enquêteurs l'ignorent encore. C'est du jamais vu dans une filière agroalimentaire. Une remontée rapide des cours et des éleveurs bien contents. Le cours du porc est désormais à 1,47€ le kilo contre 1,17€ au début de l'année. Car à cause de la peste porcine en Chine. Ce pays doit massivement importer. Les éleveurs français se renflouent. En revanche, Manuel Ruffez, les industries de la charcuterie n'arrivent plus à suivre.
La matière première, la viande de porc, c'est 60% du prix de nos produits, détaille Bernard Valla, le président des industries de la charcuterie. Autant vous dire que quand les cours augmentent de 30%, dans un secteur qui ne se porte déjà pas bien parce qu'on consomme moins de charcuterie, il pourrait y avoir de la casse, prédit Bernard Valla, à l'écoute des 210 entreprises de sa fédération.
Ils nous disent, si ça continue encore quelques semaines, je ferme la boutique. Et ça, c'est une majorité de nos membres qui sont des PME implantés dans des terroirs assez reculés où il n'y a pas d'autre alternative d'emploi. Et donc, c'est la perte de savoir-faire séculaire d'une façon irréversible. Et il y a 37 000 emplois dont une grande partie serait menacée.
Pour s'en sortir, il faudrait convaincre les grandes enseignes de la distribution de revenir autour de la table des négociations pour revoir ensemble les prix d'achat. Mais normalement, c'est terminé.
Les derniers contrats ont été signés fin février. À ce moment-là, les cours du cochon étaient très bas. La grande distribution n'a pas voulu faire d'anticipation sur cette crise. Et aujourd'hui, la crise a explosé. Donc il y a 30% d'augmentation sur les matières premières. Il faudrait au moins 15% d'augmentation par les clients.
Et Bernard Valla le certifie, on n'en est qu'au début d'une crise qui va durer encore plusieurs années.
La fin justifie-t-elle tous les moyens? Question philosophique qui pourrait réellement se poser le jour du bac philo le lundi 17 juin. Plusieurs syndicats d'enseignants, SNES, SNALC et CGT, appellent à la grève de la surveillance des épreuves. Ils protestent contre les différentes réformes de Jean-Michel Blanquer. On a beaucoup parlé du bois nécessaire pour reconstruire Notre-Dame, mais n'oublions pas les pierres. Beaucoup ont été endommagées par le feu, puis par l'eau des pompiers. Il faudra donc en changer. C'est un beau marché en perspective pour les carrières du bassin parisien, et il n'est même pas sûr que cela suffise. Sébastien Sabiron.
C'est l'une des urgences de ce chantier hors normes. Quelles pierres seront conservées? Quelles pierres seront remplacées? Comment trouver des pierres de substitution avec les mêmes propriétés physiques? Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques.
L'incendie a quand même dégradé assez en profondeur les parements. Tout ce qui est mur est quand même globalement déplaqué. Quoi qu'il arrive, il y aura besoin de quantités importantes. Il n'est pas certain que les carrières qui fonctionnent actuellement soient en mesure de fournir.
En Seine-et-Marne, la carrière de Soupe-sur-Loing a fourni notamment le Sacré-Cœur et l'Arc de Triomphe. Pierre Merlet, l'un des responsables, est sur les starting blocks.
On a le projet de pouvoir rassembler l'ensemble des producteurs, transformateurs, qui possèdent des carrières sur le bassin parisien pour les amener à apporter des réponses efficientes quant à la demande de reconstruction, à la fois sur le volume et à la fois sur la qualité.
Si l'essentiel des pierres de Notre-Dame provenait directement du sous-sol parisien, Pierre Merlet imagine déjà que ces pierres puissent être acheminées vers Paris comme dans le passé.
Il y a un aspect écologique déterminant, puisque en son temps, les pierres étaient transitées par voie fluviale. Et là, de revenir avec le même principe serait une façon de renouer avec l'histoire.
Pour que l'histoire continue, il faudra trouver tous les types de pierres nécessaires, d'où la nécessité peut-être d'ouvrir de nouvelles carrières.
Et à 8h14, cette histoire émouvante, Frédéric, à peine croyable, d'un bébé prématuré aux États-Unis.
L'hôpital de San Diego en Californie vient d'annoncer la naissance du plus petit bébé au monde recensé. La petite fille est née en décembre dernier à 23 semaines. Elle pesait un peu moins de 250 grammes et elle vient de quitter la maternité, Grégory Phillips.
La chaîne locale Fox de San Diego évoque une incroyable nouvelle et compare la taille de cette petite fille à la naissance à celle d'une pomme. Quant à l'hôpital Sharp Mary Birch de San Diego, il publie sur son site internet une vidéo qui raconte toute l'histoire de Saïbi, née en décembre à seulement 23 semaines et 3 jours de grossesse. Elle pesait 245 grammes. La mère de l'enfant témoigne dans cette vidéo.
Ma pression artérielle était très forte et les médecins ont dû procéder à un accouchement en urgence. Je n'arrêtais pas de leur dire, mais elle ne va jamais survivre. Je ne suis qu'à 23 semaines de grossesse. Les médecins ont dit à mon mari que le bébé ne vivrait pas plus d'une heure. Puis cette heure s'est transformée en 2 heures, puis un jour, puis une semaine.
La toute petite fille va passer 5 mois dans l'unité de soins intensifs. Elle était si petite qu'elle pouvait tenir dans l'une de nos mains, témoigne cette infirmière.
J'espère qu'elle saura combien elle a été remarquable, quelle combattante elle a été, et la force qu'elle a montrée pendant son séjour ici.
Finalement, la petite Saïbi a pris du poids. Elle pèse aujourd'hui 2,3 kg. Le bébé est sorti il y a quelques jours de l'hôpital, qui a filmé la mère et l'enfant à ce moment-là.
On rentre aujourd'hui à la maison et on n'oubliera jamais ce jour.
Washington, Washington, Grégory Phillips, France Inter.
10 livres en compétition, 24 jurés et le président Riyad Satouf qui rendront leur verdict le 9 juin. C'est le prix du livre Inter dont on vous parle tous les jours de cette semaine. Avec chaque jour une auteure, une autrice comme Maïlys de Kerangal. Ce matin, son livre s'intitule « Un monde à portée de main » aux éditions verticales. C'est l'histoire d'une artiste qui peint d'une façon assez singulière. Maïlys de Kerangal avec Eva Bétan.
Mon livre raconte l'histoire de Paula Karst, qu'on va connaître entre 20 et 27 ans, et c'est l'histoire d'une initiation à la peinture, mais qui est aussi une initiation au monde, car Paula va apprendre dans une école très particulière à reproduire les matériaux qui composent le monde, le matériau minéral, les marbres, végétal, les bois et animal. Elle se spécialise dans l'écaille de tortue. Forte de ce savoir-faire que je me suis attachée à décrire de manière très précise. Elle va travailler sur plusieurs chantiers, elle va apprendre à faire des décors de cinéma, elle va peindre dans des églises. Donc c'est tout un parcours de sortie de l'adolescence et d'entrée dans l'âge adulte qui l'a conduit devant les portes de la grotte de Lascaux à Montignac, le lieu de la naissance de l'art, de la pensée symbolique, de la beauté. Et pour moi, la préhistoire est aussi un moment fascinant, un moment d'avant les textes, d'avant l'écriture. Et voilà, ça me touchait énormément.
Maïlys de Kerangal en lice pour le livre Inter, avec un monde à portée de main, une interview à retrouver en longueur, tout à l'heure dans le journal de 13h.
Merci Frédéric Mettezo.